Les images d'archives, par moments, ont tendance un peu à mettre en avant, si vous voulez, la magnificence et la puissance de la personne au pouvoir. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais plutôt que son absence même hante un peu le film, d'autant plus que moi, ce qui m'intéresse en réalité, c'est plutôt la parole des victimes, c'est la parole de ceux qui reviennent de l'enfer et non pas de ceux qui ont commis l'enfer. Donc voilà pourquoi je n'ai pas mis beaucoup d'images. Il y a juste une photo de Hissène Habré, mais il n'y a pas d'image d'archives en effet. Mais c'est un choix vraiment de cinéma que j'ai fait et je n'en suis pas mécontent du tout.
Clément Abaïfouta tient un rôle central dans ce documentaire. Comment avez-vous travaillé avec lui ?
Mais écoutez, j'ai travaillé avec lui le plus naturellement du monde, c'est-à-dire essayer tout simplement de lui faire dire toute la souffrance qu'il a vécue, de lui faire raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a subi. Et c'est avec ce respect-là et cette dignité en fait qu'il a lui-même que j'ai essayé de travailler. On n'a pas essayé de construire quelque chose, il a fallu juste mettre en avant en fait la parole des victimes pour raconter un peu l'impensable. Voilà.
Il y a des scènes extrêmement fortes où vous filmez une rencontre entre quelqu'un qui a subi les tortures et la personne qui l'a arrêté, la personne qui l'a torturé.
Absolument, j'ai essayé d'imaginer un espace où on pourrait en fait partager un lieu commun comme ça entre la victime et son bourreau, ce qui est en fait la question existentielle, c'est comment continuer à être dans le même espace, à construire quelque chose ensemble après que les uns ont fait du mal aux autres. C'est la question qui se pose en fait aux Tchadiens, parce que les bourreaux et les gens qui ont participé à la DDS et tout ça, il y en a qui sont vivants, qui n'ont pas été inquiétés, mais comment en fait pardonner tout cela, comment essayer de vivre ensemble en oubliant cette tragédie-là. Ce n'est pas facile du tout, c'est un espace imaginaire que le film essaye de construire. Et ça a été une scène extrêmement forte parce que, comme tous les criminels, comme tous les gens qui ont torturé et tout ça, un peu comme chez les nazis, et ce bourreau-là, en fait, refuse de pardonner et il estime qu'il a obéi aux ordres, tout simplement. Et il se considère comme un chien qui a été dressé pour attaquer. Et quand cela, donc, il n'y avait pas de quoi le juger. C'est un cliché de la défense, en fait, des bourreaux. Mais j'ai essayé de mettre ça en scène pour bien montrer la difficulté qu'il y a à construire un espace apaisé dans lequel les uns et les autres pourraient vivre ensemble.
Vous êtes vous-même tchadien, vous connaissiez évidemment la violence, les tortures de la DDS. Est-ce qu'il y a des moments de ce film, des témoignages qui vous ont appris quelque chose ou qui vous ont particulièrement choqué ?
Absolument, oui. Il y a deux exemples dans le film qui m'ont vraiment choqué. C'est qu'il y a un témoin, un survivant, qui dit avoir prié sur 2053 cadavres. Il a vu mourir dans la cellule où il était 2053 cadavres sur lesquels il a prié. Et ce même témoin dit qu'il a découvert sur un cadavre, en fait, une aiguille qu'on a plantée dans la tête de la personne. Et que donc ça m'a hanté pendant des nuits, je n'arrivais pas à dormir. L'autre exemple, c'est un monsieur qui est mort 2 jours avant son audition par le tribunal, par visioconférence, c'est un homme qui, à cause des tortures qu'il a subies, a passé les 20 dernières années de sa vie couché. Il ne pouvait pas rester assis, il ne pouvait adopter aucune position que celle de rester couché. Et 2 jours avant son audition par visioconférence, il est mort, il est décédé, alors qu'il attendait ce moment-là depuis de longues années. Mais quand le moment est arrivé, son cœur a lâché. Voilà.